Il est 11h à Paris, 9h en temps universel. Vous écoutez RFI, 14h à Islamabad.
Diane Berger.
Le Pakistan a riposté contre l'Inde la nuit dernière. Les deux pays engagés dans leur pire confrontation militaire depuis des années. Le conflit a déjà tué une cinquantaine de civils des deux côtés de la frontière et les appels à l'apaisement de la communauté internationale sont pour l'instant ignorés. À la une de ce journal également, ce déplacement historique pour l'Europe de la défense. Les dirigeants français, allemands, polonais et britanniques sont à Kiev ce matin pour une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'objectif, mettre la pression sur la Russie et accélérer les négociations pour un cessez-le-feu en Ukraine. Nous reviendrons aussi sur les conséquences des baisses du budget des Nations Unies en République démocratique du Congo. Et puis on terminera ce journal à Rome après l'élection de jeudi du pape Léon XIV. Reportage auprès de la communauté Saint-Égidio, proche de François, le pape précédent. On s'y interroge sur l'avenir qui se dessine pour l'Église catholique. Shehbaz Sharif, le Premier ministre du Pakistan, annonce avoir, je le cite, « vengé les morts innocents avec une réponse adéquate ». Son pays a mené la nuit dernière une série de frappes contre l'Inde, des frappes en représailles aux attaques indiennes sur le sol pakistanais, officiellement contre des camps désignés comme terroristes. Les deux puissances nucléaires, voisines et ennemies jurées, sont engagées dans leur pire confrontation depuis des décennies. Une cinquantaine de civils ont d'ores et déjà été tués de part et d'autre de la frontière. Les explications de notre correspondant Combastin.
En réaction à une nouvelle nuit d'affrontements, le porte-parole de l'armée pakistanaise a annoncé une large opération de représailles. Lancée ce matin, elle aurait notamment détruit une base aérienne et un dépôt de missiles. L'armée indienne a confirmé avoir été de nouveau attaquée, notamment par des drones. Les vérifications indépendantes sur les frappes entre les deux pays sont difficiles. Côté indien, on affirme que plus tôt déjà, 5 personnes ont trouvé la mort sous les tirs d'artillerie, dont un officiel de haut rang. Des attaques de drones pakistanais ont aussi eu lieu dans 26 zones frontalières, occasionnant un blessé. Les drones auraient aussi ciblé l'aéroport de Srinagar, la capitale du Cachemire. L'Inde reconnaît avoir visé et endommagé plusieurs bases aériennes du Pakistan durant la nuit. Deux explosions ont retenti dans la région d'Islamabad, non loin du siège de l'armée et des renseignements. Aucun signe d'apaisement entre New Delhi et Islamabad, au contraire. On assiste à une escalade telle que les médias n'hésitent plus à parler de guerre. De nombreux pays ont une nouvelle fois appelé à la désescalade et proposé leur médiation. Combastin, Bangalore, RFI.
Parmi ces appels à l'apaisement, justement, celui du chef de la diplomatie américaine Marco Rubio. Il demande aux deux pays de rétablir le dialogue pour éviter, je cite, une erreur de calcul. La Chine appelle également fermement l'Inde et le Pakistan à éviter la guerre. Et les pays membres du G7 leur demandent de faire preuve de la plus grande retenue possible. Je cite, là encore, la poursuite de l'escalade militaire constitue une menace sérieuse pour la stabilité régionale. L'autre grand titre de l'actualité internationale ce samedi, c'est la visite de 4 dirigeants européens en Ukraine. Alors que les négociations menées par Washington patinent pour obtenir un cessez-le-feu de 30 jours, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le premier ministre britannique Keir Starmer sont arrivés à Kiev ce matin. Le premier ministre polonais Donald Tusk est lui arrivé avec un convoi séparé. Depuis le train qui les a amenés chez leur allié, le président français a appelé à des discussions directes entre Kiev et Moscou. Si Moscou n'accepte pas un cessez-le-feu de 30 jours, Friedrich Merz menace, lui, les sanctions contre la Russie pourraient devenir beaucoup plus dures. D'ailleurs, pour assurer la maintenance des canons César livrés à l'Ukraine, la France annonce de son côté qu'elle va mobiliser les revenus tirés des avoirs russes gelés en raison de ces sanctions. Face au possible désengagement américain, les Européens redoublent d'efforts pour soutenir l'Ukraine, Franck Alexandre.
Depuis le début du conflit, le débat est vif en Europe. Faut-il saisir pour les donner à l'Ukraine les quelques 235 milliards d'euros russes gelés par les Occidentaux et dont la majorité se trouve sur le vieux continent? Cela contreviendrait au droit international, a toujours fait valoir la Commission européenne. Mais puisque le diable se niche dans les détails, l'Union européenne, en mars dernier, a trouvé une solution légalement plus acceptable. Si on ne touche pas au crédit, on peut en revanche puiser dans les intérêts perçus. 1 milliard d'euros, dans un premier temps, sera donc débloqué. Paris, qui a pris la tête de la coalition artillerie pour l'Ukraine, compte utiliser cette ligne budgétaire pour financer notamment l'entretien des canons César. La France a livré une 60aine d'exemplaires de ces pièces d'artillerie, dont les tubes, par exemple, doivent être changés tous les 8000 coups. L'annonce intervient aussi le jour du défilé du 9 mai sur la place Rouge à Moscou, une parade pensée comme un outil de propagande par le Kremlin. En réponse, l'Europe affiche donc sa détermination et le fait savoir, surtout face aux réticences américaines à soutenir plus longtemps l'Ukraine.
Un autre cycle de négociations commence aujourd'hui. Le secrétaire américain au Trésor et le vice-premier ministre chinois se retrouvent à Genève ce week-end. Des discussions dans un lieu secret entre les deux pays en pleine guerre commerciale. Guerre commerciale enclenchée par le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, qui a imposé, on le rappelle, une surtaxe de 140% sur les marchandises chinoises importées aux États-Unis. Les Nations Unies sonnent l'alarme sur leurs moyens en République démocratique du Congo. Le Bureau des affaires humanitaires, l'OCHA, annonce une réduction de près de la moitié de ses objectifs d'aide dans le pays, cela faute de financement. L'appel de fonds lancé en février pour mobiliser 2,6 milliards de dollars reste largement ignoré. Et la suspension de l'aide américaine n'y est pas pour rien, Patient Ligaudy.
La tendance était déjà inquiétante et elle vient de se confirmer. À la fin du mois d'avril, seuls 9% des fonds demandés avaient été mobilisés. C'est moitié moins que l'année dernière, à la même période. La raison principale, la suspension de l'aide américaine. Washington finançait à lui seul 70% du budget humanitaire. Conséquence directe, des secteurs vitaux comme la santé, la sécurité alimentaire ou encore la réponse aux urgences sont aujourd'hui en danger. Et face à cette chute brutale des financements, l'ONU a dû faire des choix. Une liste rouge a été dressée et seules les interventions jugées les plus urgentes seront maintenues. Ce sont des millions de personnes qui risquent ainsi de ne plus recevoir d'aide. L'ONU veut concentrer les efforts sur les plus vulnérables, optimiser l'impact avec ce qui reste. Autre priorité désormais, trouver de nouveaux partenaires. Gouvernement, bailleurs de développement, secteur privé, tous sont sollicités. Et puis cette crise pose aussi la question des responsabilités locales. L'ONU appelle l'État congolais à s'impliquer davantage en apportant un soutien logistique, en facilitant l'accès aux zones touchées et en renforçant la coordination au niveau provincial. Un appui essentiel pour que les humanitaires puissent se concentrer sur les urgences et n'aient pas remplacer les services publics.
160 000 habitants confinés à cause d'un nuage toxique de chlore en Espagne. 5 municipalités de Catalogne appellent les habitants à rester donc chez eux après un incendie à l'aube sur un dépôt industriel à l'origine donc de cette pollution. Pour l'instant, aucun blessé n'a été signalé. À quoi va ressembler l'église catholique dirigée par Léon XIV? Son prédécesseur, le pape François, avait tourné son pontificat autour de la question des plus démunis. Et Nicolas Roca s'est rendu pour RFI dans un lieu héritier de cette politique, le palais Migliori, qui héberge les sans-abri à deux pas du Vatican.
Adossé à la place Saint-Pierre, sur un petit panneau, on peut lire « Sant'Egidio », du nom de cette communauté de fidèles catholiques engagés dans la lutte contre la pauvreté. Carlo Santoro est responsable du lieu devant lequel attendent des sans-abri.
On avait vu que cette palais, il était vide. Donc on a pensé pourquoi pas utiliser pour les pauvres.
Il nous mène à travers les couloirs de ce palais où vivent 45 sans-abri. Un lieu offert par le Vatican puis inauguré par le pape François en 2019 qui offre aussi des repas aux personnes dans le besoin. Sarah nous donne le menu. Des pâtes au calamar, à la tomate que Rosa va déguster ce soir.
Ici j'ai tout, il me manque rien. Docteur, douche, sommeil, dîner, petit déjeuner, vêtements. Je passe mes journées dans les colonnades. Et à 21h, je vais me coucher comme les enfants.
Fan du pape François, elle espère voir son héritage se poursuivre.
Espérons qu'il soit aussi bon que le pape François.
Ici sont hébergés et nourris des Italiens, mais pas uniquement. Carlo Santoro.
Les immigrés qui ont essayé de venir en Europe et sont morts dans la Méditerranée, ils ont été une terrible perte pour l'humanité. Nous n'avons pas peur. Un nouveau pape qui veut oublier les pauvres. Les pauvres, maintenant, sont au centre de l'Église.
Du moins, ils sont une priorité de la communauté Sant'Egidio, parfois critiquée, notamment pour ses actions de médiation diplomatique par certaines branches plus conservatrices de l'Église catholique. Nicolas Roca, Rome, RFI.
Il est maintenant 9h, quasiment 10 minutes en temps universel. C'est la fin de ce journal. 11h10 ici à Paris. Merci beaucoup d'écouter Radio France Internationale.